sur la table du fond, et donc voilà. Donc je passe la parole à Philippe Baquet qui va vous intéresser.
Bon, mais bonsoir et merci d'être venu aussi nombreux. D'ailleurs, c'est un peu intimidant de voir tant de monde. Si vous voulez vous rapprocher, je ne sais pas si c'est une possibilité.
Il
n'y a plus de chaises. Bon.
Ici, à l'école, on ne peut pas se mettre à trois sur deux chaises.
Oui, ça soit tous par terre. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est que moi, je ne vais pas parler. Je ne voudrais pas parler pendant trois quarts d'heure ou une heure. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, des réflexions, si vous n'êtes pas d'accord, si, quoi que ce soit, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Le but, c'est que ça soit un échange et que chaque conférence n'est jamais pareille grâce aux personnes qui sont présentes. Donc, n'hésitez absolument pas à poser des questions ou à intervenir. Voilà. Donc, je suis ici pour vous parler de ce livre qui s'appelle « La bio entre business et projet de société ». C'est un livre qui est sorti qui a été publié par les éditions Agon et qui est sorti au mois de mai 2012. Donc ça fait déjà un petit moment. Je crois qu'on en est à la 100e conférence. Donc voilà, c'est un livre qui est un livre collectif, comme on vous l'a dit. Donc il y avait Patrick Herman qui devait venir le mois prochain, qui est un des auteurs, qui intervient là en tant que paysan. On est 8 auteurs. Moi, j'étais le coordinateur de ce livre. Donc il y a des paysans ou journalistes comme Patrick Herman, il y a un paysan maraîcher comme Pierre Besse, qui est dans la banlieue toulousaine, qui est très impliqué dans le mouvement des AMAP. Il y a des journalistes comme Clémentine Sirio, qui est allée enquêter en Palestine et en Israël, parce que vous allez voir qu'on trouve de plus en plus de produits bio qui proviennent du pourtour méditerranéen, entre autres. Il y a Inde, Benani et Patrick Herman qui sont enquêtés au Maroc. Michel Besson, qui est quelqu'un de très impliqué depuis 30 ans dans ce qu'on peut appeler maintenant un commerce, une démarche vers une économie équitable. Au début, c'était le commerce équitable, ils s'en sont démarqués parce qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans ce que fait Max Aveler, entre autres, en ce moment. Michel Besson a créé le réseau Minga, qui est pour une solidarité internationale et non pas du tout dans une logique caritative comme on peut la retrouver dans le commerce équitable actuellement. Après, il y a Sylvia Pérez-Vitoria, qui est une sociologue, qui a écrit deux livres, notamment Le retour des paysans et La riposte des paysans, et qui est aussi réalisatrice de films. Et je crois que j'ai oublié personne, à part moi, qui suis journaliste et réalisateur de films documentaires. Alors, ça n'a pas été évident de faire ce livre un peu critique sur la tournure que prend la bio actuellement, parce qu'on ne voulait absolument pas du tout nuire à ce qu'on peut appeler la bio, mais au contraire, on a voulu faire un livre qui soit critique, mais constructif, qui permette à tout un tas de débats de pouvoir avoir lieu dans la transparence et pour faire avancer les choses. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a fait un livre collectif, pour avoir un regard pluriel, et on a voulu être indépendant dès le départ. C'est important, ce que je vous dis, ça peut paraître un peu en dehors du sujet, mais c'est une démarche. C'est un livre collectif, et on s'est donné les moyens en faisant une souscription. Moi, j'ai fait pas mal de conférences, j'ai écrit des articles dans Le Monde Diplo, dans Politis, dans tout un tas de revues. Le but, c'était de collecter des fonds pour avoir l'indépendance et faire le livre que l'on voulait. Parce qu'aucun éditeur autrement n'aurait accepté ce livre tel qu'il est. Agon s'est joint à nous à la fin, mais un livre collectif comme ça a très peu de chances actuellement de pouvoir aboutir. Après, ça a été un livre collectif au niveau des moyens aussi, de cette souscription qui a réuni au moins 500 personnes. Et ça a été aussi une expérience collective parce que les éditions Agon fonctionnent aussi sur un mode collectif libertaire. Voilà. Donc, alors, comment est né ce projet de livre? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un spécialiste de la bio. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Je suis un journaliste et je ne suis pas du tout un conférencier professionnel non plus. Donc, j'étais par contre un consommateur de produits bio. J'habite dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, qui est la ville, je crois, où il y a eu le premier marché bio créé en France, ou l'un des premiers marchés bio. Donc, j'étais un consommateur de produits bio. J'avais fait un film en tant que réalisateur il y a 10 ans, en 2000, au début des années 2000, sur l'Andalousie qui s'appelait L'Eldorado de plastique. C'était un film qui a été diffusé sur Arte, je crois, ou France 2, je ne sais plus, peu importe. Mais c'était un regard critique sur cette agriculture hyper intensive et hyper industrielle qui s'est développée en Andalousie, dans la région d'Almeria, et maintenant qu'on retrouve sur toute l'Andalousie, aussi bien vers Huelva, Murcia. Et d'ailleurs, sur des photos de satellites, on voit une énorme tache blanche au sud de l'Espagne. C'est cette mer de plastique qui continue à envahir tout le littoral. Alors j'avais fait un film critique sur le système agricole qui s'est développé là-bas, totalement destructeur au niveau de l'environnement, puisque je sais qu'à l'époque, il y avait des trous qui étaient creusés par des bulldozers dans lesquels des camions venaient déverser des tonnes et des tonnes de bidons vides qui avaient contenu des pesticides. Ils recouvraient ça très vite et après on retrouvait ça dans les nappes phréatiques. Merci d'éteindre les téléphones, de rallumer les téléphones portables quand vous sortez. Donc voilà, c'était une critique de ce système hyper productif, hyper polluant, et surtout c'était une critique aussi de l'exploitation de la main d'œuvre agricole, essentiellement des Marocains qui traversaient la Méditerranée sur des patéras au risque de leur vie, qui se faisaient exploiter de façon pratiquement esclavagiste par les agriculteurs espagnols. Il y avait eu des émeutes très dures dans la région des Lérido, et c'est ce qui fait qu'on avait été là-bas pour faire ce film. Et 10 ans après, j'ai eu l'occasion de commencer un travail aussi pour préparer un film documentaire, qui n'a toujours pas vu le jour, sur un peu ce qui se passait au niveau de l'agriculture bio, parce que dans les années 2000, il y a eu un engouement de plus en plus fort pour la bio. Et donc, on commençait à avoir des produits qui venaient un peu de partout, des haricots qui venaient du Kenya, des tomates qui venaient du Maroc, je ne sais plus, moi, du safran qui venait de Grèce, et de l'huile de palme qui venait de Colombie. Donc, il y avait besoin de préparer une enquête, de savoir un peu d'où venait tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller en Andalousie, et j'avais le contact avec la plus grande exploitation de fraises bio d'Europe, qui s'appelle Bionest, et dont les 500 hectares de serre se trouvent dans la région de Huelva, donc en Andalousie. Donc j'avais le contact avec un technicien français qui travaillait là-bas. Ce n'est pas le seul contact que j'avais en Andalousie. J'aurai l'occasion, j'espère, de parler des autres choses que j'ai pu voir là-bas. Mais donc, pour moi, c'était ma première rencontre avec ce qu'on peut appeler l'agriculture bio-industrielle. Donc, la première surprise, ça a été de constater que ces 500 hectares de serre bio se trouvaient donc dans la région de Huelva et se trouvaient sur le territoire d'un parc national qui s'appelle Doñana et qui est un territoire déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO et sur lequel, normalement, on ne devrait pas trouver de culture intensive. Donc, ces 500 hectares de serre bio, déjà, se trouvaient dans un lieu où on n'aurait pas dû être. Après, la deuxième surprise, c'était qu'on se trouvait face à une monoculture de fraises, ce qui, pour moi, en tout cas, paraissait incompatible avec l'image que je me faisais de la bio. La troisième surprise, c'est quand je me suis présenté à Bionest, je devais me présenter je ne sais plus quel jour, le matin, à telle heure, et on m'a interdit l'entrée. Le patron m'a fait pratiquement chasser de Bionest et je n'ai pas pu rentrer parce que le patron ne voulait plus voir de journalistes et fermait totalement les portes de son exploitation agricole. Quelque temps après, ce sont des députés européens, français et roumains, qui ont essayé de rentrer pour venir enquêter sur le sort des ouvrières agricoles roumaines. Et pareil, ils ont été conduits de façon un peu plus polie et diplomatique, mais n'ont pas pu visiter les serres. Ce qui était pour moi à l'époque assez choquant, parce que l'agriculture bio, pour moi, était quand même synonyme de transparence. Et c'est ce qu'on peut attendre. Normalement, on n'a rien à cacher quand on fait de la bio. Et que ce soit au niveau des techniques agricoles ou au niveau des ouvriers agricoles que l'on peut employer. Donc ça, c'est la troisième surprise. Après, il y en a eu d'autres. Je voulais en tout cas savoir de quel type d'agriculture il était question dans ces serres que je ne pouvais pas visiter. Donc j'ai contacté une deuxième exploitation agricole bio, qui s'appelait Flor de Doñana, qui est la deuxième exploitation productrice de fraises bio en Europe, qui se trouve elle aussi à Doñana, juste à côté de Bionest. Et là, c'est pas 500 hectares, ce ne sont que 40 hectares de fraises bio. Donc eux, ils ont accepté de me recevoir. J'ai pu rentrer et visiter les serres et voir un peu de quel type d'agriculture il s'agissait. Et là, ma 5e, 6e ou 7e surprise, je ne sais plus, ça a été de constater qu'en fait, je retrouvais exactement le même type d'agriculture que ce que j'avais pu voir 10 ans auparavant, lorsque j'étais venu faire un film sur l'agriculture chimique industrielle. On se retrouvait dans les mêmes serres, les mêmes alignements de fraisiers. Alors évidemment, il n'y avait pas de produits chimiques, puisque le minimum quand même, là on ne peut pas y toucher, c'est que la bio ne fasse pas appel à des produits chimiques. Mais c'était pareil, c'était des fraisiers hors sol, c'est-à-dire que leurs racines se développaient dans du sable local, et les fraisiers étaient alimentés par un réseau de goutte à goutte qui leur amenait l'eau et les nutriments, donc technique de hors sol. Les serres, exactement le même type de serres que celles qui existent par ailleurs. Mais en tout cas, ce qui était étonnant, c'était donc de trouver du hors-sol en agriculture biologique. Alors après, quelques temps après, quand j'ai eu l'occasion de me pencher sur la nouvelle réglementation européenne qui régit actuellement l'agriculture biologique dans toute l'Europe depuis le 1er janvier 2009, l'agriculture hors-sol, l'hydroponie, est normalement interdite en agriculture bio, mais il y a... Cette réglementation donne une définition très stricte et très restrictive du hors-sol. Le hors-sol, c'est les plantes. On ne nourrit pas le sol, mais on nourrit les plantes, comme je disais, avec un réseau de goutte à goutte qui amène les nutriments. Et donc, dans la réglementation européenne, elle donnait une liste de 4 substrats inertes dans lesquels ces plantes ont quand même besoin de développer leurs racines. Et dans les 4 substrats inertes de la liste, il n'y avait pas de sable. Et donc le sable de la région de Doñana, qui est en plus un sable local, ne rentrait pas dans la liste d'interdiction de l'hydroponie. Donc on pouvait, Bionest pouvait développer ce type d'agriculture sans en échappant aux restrictions de la réglementation. Voilà. Et enfin... Dernière surprise dans le lot, ça a été de constater que toute cette agriculture biologique industrielle est basée essentiellement sur l'exploitation d'une main-d'œuvre agricole aussi immigrée, en l'occurrence dans cette zone essentiellement des femmes. Alors dans les serres, dans les usines de conditionnement, ce sont des Espagnols, mais dans les serres, ce sont essentiellement des femmes venues de Roumanie, de Bulgarie, du Maroc, du Sénégal, de Pologne, et à l'époque aussi, il y avait des femmes qui venaient de Philippines. Alors ces femmes viennent en Espagne avec des contrats dits d'origine. Elles sont totalement soumises, c'est carrément du féodalisme, elles sont totalement soumises à leur patron, parce que ces femmes, par exemple les Roumaines, sont recrutées par des organisations agricoles espagnoles qui vont en Roumanie et qui chaque année ont des quotas, recrutent un certain nombre de femmes. Ils savent que dans la région de Huelva, on a besoin de 35 000 femmes. Donc ils vont recruter 20 000 femmes en Roumanie. Et à partir du moment, par exemple, où des Roumaines ont un contrat avec Bionest, doivent travailler 6 mois chez Bionest, elles ont un visa, après en Espagne, qui leur permet de rentrer sur le territoire européen, un visa de 6 mois, quelques jours pour venir jusque chez Bionest et quelques jours pour partir. Et voilà. Et leur visa expire dès que leur contrat de travail est fini. Ça veut dire qu'après, elles doivent repartir en Roumanie, repartir au Maroc. Et alors, je posais la question quand même, pourquoi ils recrutaient essentiellement des femmes? Parce que des femmes, souvent avec des enfants, comme ça, elles sont obligées de revenir dans leur pays d'origine. Et puis, soi-disant, elles sont plus soumises. Enfin, ça, c'est les... Plus soumises, plus travailleuses, moins... Enfin, bon, ça, c'était les patrons espagnols qui donnaient cette version-là. En tout cas, ces femmes, à peine arrivées, et notamment Bionest, c'est pareil, à peine arrivées sur l'exploitation, leur passeport est confisqué, elles se retrouvent parquées dans des logements totalement à l'écart de toute urbanisation, sur les terres du propriétaire, et elles sont totalement soumises à lui. Elles ne parlent pas espagnol, la plupart du temps, donc elles n'ont aucune connaissance du droit du travail, elles n'ont aucun contact avec la population espagnole. Donc on se retrouvait exactement dans la même situation de ce que j'avais pu voir 10 ans auparavant. Et là, effectivement, on pouvait se poser de... Enfin, moi, je me suis posé, et puis on peut se poser beaucoup de questions sur ce type de bio qui est en train de se développer actuellement pour alimenter le marché en Europe. Voilà. Donc ça, c'est un peu une parenthèse pour expliquer comment, moi, j'en suis venu à travailler sur cet ouvrage. Parce qu'au retour en France... Alors, que je vous rassure, je n'ai pas vu que ça. J'ai vu des choses aussi extraordinaires en Andalousie, où des gens développent une agriculture biologique paysanne totalement à l'opposé, en rupture avec cette agriculture industrielle. mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Parce que dans le livre, il est question de dénonciation de ces dérives, dont je vous ai donné un premier exemple, mais aussi il est question de parler de tout un mouvement, aussi bien au niveau de la production que de la distribution, qui est un mouvement alternatif en rupture totale avec le système dominant dans lequel on vit aujourd'hui. Mais donc, en revenant en France, j'ai commencé à parler de ce que j'avais vu en Andalousie. Et là, à ma grande surprise, les réactions ont été diverses. Bon, des gens étaient totalement d'accord, que ce soit des consommateurs ou dans des boutiques bio ou des producteurs, parce qu'ils étaient déjà au courant. Mais ce qui m'a étonné, c'était que la réaction de certaines organisations paysannes, bio ou pas bio, disaient qu'il fallait, ok, ils étaient au courant de ce qui se passait, mais qu'il ne fallait pas parler de ça, parce que ça allait nuire au développement de la bio, et que ça, il fallait en parler dans 10 ans, 15 ans, quand la bio se serait bien établie, et là, on pourrait commencer un mouvement critique. Donc ça a été, ça a été un cas de conscience pour moi, mais je finis. Mais finalement, donc, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient un peu dans la même logique, et on s'est dit qu'il fallait, à tout prix, parler de ça, parce qu'autrement, un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, ces questions allaient être évoquées. Il valait mieux que ça soit évoqué de l'intérieur que de l'extérieur. Par exemple, il y a eu le cas du soja bio importé de Chine, c'était en 2008, je crois, qui a été retiré du marché. Ce soja bio, c'était plusieurs centaines ou milliers de tonnes, était importé par la coopérative agricole Terena, qui n'est pas un des historiques de la bio, mais qui à un moment donné a compris qu'il pouvait se faire de l'argent avec la bio, a développé des élevages de poulets bio intensifs dans l'ouest de la France, je vais y revenir dessus après, et faisait venir du soja bio, de grandes quantités de soja bio importé de Chine. Et dans ce soja bio, on a trouvé de la mélamine, qui est un produit hyper toxique, qui fait monter artificiellement le taux de protéines. Et donc voilà, il y a eu un premier scandale, et ça, il valait mieux en parler avant, il vaut mieux qu'on en parle de l'intérieur, de ces risques, plutôt que la presse s'en empare et qu'on tire à boulet rouge sur l'ensemble de la bio sans faire de distinction. Excusez-moi, il y a une première réaction.
Quand vous parlez des organismes qui ne veulent pas reconnaître ce que vous dites en Espagne, là, vous pouvez préciser c'est quels organismes ?
Ah ben, ça a été la FNAB. Mais bon, il y a la Fédération nationale de l'agriculture biologique, hein, qui est le principal syndicat des producteurs de la bio. Il y a eu des débats. Hein. Il y a Dominique Marion, que je connais, lui, était totalement partisan. Mais finalement, la FNAB ne s'est pas engagée dans le soutien à notre projet. On a eu le soutien de Nature et Progrès, de la Confédération paysanne, du Forum civique européen, de Minga, mais pas de la FNAB. Après, il y a d'autres... la Confédération paysanne, bon, il y a eu des débats. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Mais voilà. Donc, c'est peut-être qu'il y a d'autres réactions. Alors, si vous le voulez, je vais continuer. Donc, en tout cas, nous, dans ce livre, ça nous a semblé important aussi de faire un point historique par rapport à la bio, d'où venait la bio, et pour avoir des références, pour pouvoir comparer l'état d'esprit du départ à ce qui est en train de se développer à partir du moment où la bio était intégrée dans un marché globalisé. La bio est apparue en Europe. Alors peut-être que je peux me tromper, qu'il y a des personnes présentes dans la salle qui pourront compléter. En tout cas, la bio, pour aller très vite, est apparue en Europe dans les années 20, dans les années 20-30, en réaction déjà à une agriculture chimique qui était en train de se généraliser suite à la Première Guerre mondiale, puis qui s'est totalement généralisée suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc parmi les fondateurs historiques de la bio, on trouve en Allemagne Steiner, qui est le fondateur de la biodynamie, de l'anthroposophie, qui existe aujourd'hui sous la marque Demeter, qui est très présente et qui fait partie des gens les plus exigeants au niveau de la bio. Donc Rudolf Steiner, qui était un philosophe. On trouve aussi un botaniste énormément impliqué dans la défense du monde paysan, qui a beaucoup travaillé en Inde, qui s'appelle Albert Howard, qui est un Anglais, et qui a participé à la création de la Soil Association, qui est l'équivalent un peu de Nature et Progrès, qui est même, je pense, aujourd'hui une certification. On trouve des chercheurs suisses, Hans et Maria Müller. On trouve un médecin allemand, Hans-Peter Rusch, Et on pourrait rajouter aussi un Japonais qui a vécu lui plutôt dans les années 60, qui s'appelle Fukuoka et qui a lui beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la permaculture. Donc on pourrait rajouter beaucoup d'autres branches à ce qui pourrait être la base de cette agriculture bio. Mais bon, c'est un mouvement très divers, pas du tout homogène au niveau politique, bien au contraire. Mais en tout cas, on peut trouver certains points communs. Au-delà de certains critères, de la défense de certains critères agronomiques, qui est déjà la première chose, non-utilisation, interdiction totale de produits chimiques dans l'agriculture, qui est aussi basée sur le respect du sol, un sol fertile et enrichi d'organismes vivants. On peut parler aussi de lutte contre les maladies et contre les insectes grâce au respect des équilibres naturels. Enfin, bon, on pourrait trouver encore d'autres exemples de ces pratiques agronomiques communes aux pères fondateurs de la bio. Mais à côté de ces techniques, ils avaient aussi en commun une certaine vision sociale, notamment un retour à la défense du monde paysan, qui était... Parce que l'agriculture industrielle, par exemple, s'est développée sur la science, sur la toute-puissance de la science et des techniciens, et une espèce de déni de tout le savoir paysan. Eux essayaient de revenir à ce savoir-faire paysan, défendaient le monde paysan, et à l'encontre de tout ce qu'on pourrait appeler l'agriculture scientifique. Ils avaient aussi une vision critique vis-à-vis de la société marchande, et surtout de l'industrialisation de l'agriculture qui sentait déjà venir et qui allait mettre en péril justement ce monde paysan qui était un peu vacillant dans ce 20e siècle. Et surtout aussi, ils ont donné la base de l'agriculture biologique paysanne basée essentiellement sur des petites fermes autonomes avec diversification des cultures ou arboriculture, maraîchage, grande culture et élevage se complètent pour faire un ensemble autonome et homogène. Voilà. Donc si vous voulez, on peut faire déjà une petite pause. J'espère que vous n'allez pas me laisser parler pendant trois quarts d'heure, parce que j'ai plus de voix. Bon, pour continuer quand même dans l'élan, au niveau de savoir d'où on parle et de quoi il s'agit quand on parle de la bio, on peut faire un bond jusque dans les années 60, parce que ces pères fondateurs ont inspiré un certain nombre de mouvements qui sont créés en Europe, et celui qui a été l'un des plus puissants en France et qui a beaucoup influencé le développement de la bio en Europe, et qui s'appelle Nature et Progrès, qui existe toujours. Il y a une marque, mention Nature et Progrès, qui est aussi une référence d'une bio beaucoup plus exigeante que le label officiel AB et que la réglementation européenne. On pourra y revenir dessus. Mais donc le mouvement Nature et Progrès a été très dynamique et très puissant dans les années 70. Il a inspiré la création d'un mouvement international autour de l'agriculture bio qui s'appelle l'IFOAM. Et l'IFOAM, en 1972, a adopté une charte. Et là, je vais vous donner très rapidement quelques extraits de cette charte parce que c'est elle qui sert encore de référence à l'ensemble des organisations paysannes, que ce soit la FNAM, Nature et Progrès ou même au niveau international. Alors il faut savoir que dès 1972, voilà la définition que la charte de l'IFOAM donnait de l'agriculture biologique. Et on va voir, si vous le comparez à l'exemple de ce que je vous ai parlé en Andalousie, de Bionest dans la région de Huelva, on est très éloigné de ce qui est en train de se développer autour d'une certaine agriculture bio. Alors voilà quelques extraits de la charte de l'IFOAM de 1972. L'agriculture biologique doit produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme et respecter la spécificité des terroirs en favorisant l'expression des potentialités naturelles et humaines. Cette agriculture doit favoriser la solidarité entre tous les membres de la filière bio au niveau international et ne doit pas participer au pillage des pays pauvres. Et vous allez voir dans quelques exemples que je vais vous donner tout à l'heure qu'on en est très loin. On est exactement dans la reproduction du schéma du pillage des pays pauvres. Je parle toujours d'une certaine bio, il ne faut pas généraliser, une bio industrielle qui est plutôt liée à la grande distribution et aux coopératives agricoles. Cette agriculture biologique doit rapprocher le producteur du consommateur par l'information sur les conditions de production et de transformation et par la transparence dans les démarches destinées à garantir la qualité des produits. L'exemple de Bionest est totalement à l'opposé de cette transparence. La coopération est préférable à la compétition. Et vous allez voir que l'agriculture biologique industrielle qui est en train de se développer aujourd'hui est dans une logique de guerre commerciale et dans une logique de guerre économique. Ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'elle est dans un système qui fonctionne que comme ça. Les tailles des exploitations devaient être à échelle humaine. Ce que je vous disais, les fondateurs avaient réfléchi et avaient développé des fermes autonomes qui ne pouvaient être qu'à échelle humaine. Et avec, par exemple, une exploitation de 20 000 hectares de canne à sucre bio au Brésil, on est un peu éloigné de ce type d'exploitation à échelle humaine. Des prix équitables et résultant d'une concertation devaient être pratiqués à tous les échelons de la filière. Et déjà, dès 1972, on se rend compte qu'il y avait la préoccupation d'un prix équitable, un prix juste, destiné à rémunérer justement le producteur, dans la transparence. Enfin, cette charte de l'IFOAM entend privilégier la distribution de proximité. Et donc, cette proximité était déjà aussi présente en 1972. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement de plus en plus fort qui y revient. Mais c'était déjà présent, et j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir, puisque cette exigence d'une distribution de proximité a donné lieu à la création des biocoop, qui sont partis, les biocoop, sont partis d'un mouvement très fort de groupement d'achat, de groupement de consommateurs, de groupement de producteurs, et donc dans la recherche d'une distribution de proximité. Voilà, je crois que j'ai fait... On pourrait multiplier les exemples, mais là, on est dans le cadre donc, d'une charte qui a des exigences, qui avait des exigences au niveau technique, agronomique, mais qui avait aussi des exigences au niveau social, respect de l'environnement, et au niveau même, on pourrait dire, politique. Et aujourd'hui, avec la réglementation européenne qui est en vigueur depuis 2009... qui succède à une réglementation européenne qui était en vigueur depuis 1991 et qui, fondamentalement, au moins sur ce point, il n'y avait pas de différence. Cette réglementation n'a aucune exigence de respect de quelconque critère social, encore moins politique, mais ça, on ne peut pas s'en étonner, mais même de défense de l'environnement. Et ça, c'est, à mon avis, assez grave. Et c'est ce qui a ouvert la porte. Après, je pourrais vous donner au fur et à mesure des discussions, peut-être quelques exemples de cette réglementation qui a permis le développement de cette agriculture biologique industrielle. Mais en tout cas, c'est cette réglementation qui a ouvert la porte à une agriculture encouragée par les grandes chaînes de distribution des supermarchés et des coopératives agricoles. Alors, si vous voulez, on peut faire une pause. J'attends, je sais pas, si vous avez déjà des réactions.
Léna.
Oui. J'ai toujours un peu de mal avec cette nostalgie d'une ferme où il y a du poulet, du chèvre, machin, truc, et aussi des céréales. On est autonome et on fait tout. Tu sais que ce paysan, il est cloué sur sa terre du 5h du mat jusqu'à 10h le soir, 7 jours sur 7, parce que avec cette situation des animaux, il faut les nourrir tous les jours, il faut les mettre dans le pré tous les jours, et ainsi de suite. C'est pas par hasard que plein de paysans aujourd'hui ont abandonné justement cette chose,
cette agriculture.
Spécialisée sur soit les animaux, soit. Je sais que du point de vue biologique, il vaut mieux d'avoir les deux. Mais du point de vue.
Alors, moi juste pour te répondre, mon voisin qui, lui, en agriculture, enfin, le village d'où je viens, il y avait 40 fermes avant. Alors, effectivement, il n'y en a plus que deux maintenant. Toutes ces fermes ont disparu. C'était peut-être sur le modèle familial que tu décris, mais je pense que si elles ont disparu, ce n'est pas parce qu'il y avait des poules et des lapins dans la cour. Mon voisin, il exploite 300 hectares. Il a récupéré toutes les terres, il est en intensif industriel, il a de l'élevage, il fait de l'élevage.
C'est pas honnête
intellectuellement. Non, attends, juste je finis. Et donc lui travaille du matin jusqu'au soir, il travaille du matin jusqu'au soir, il part jamais en vacances et il est hyper endetté et il doit sortir à peine le SMIC. Donc, et pourtant, il est dans une dans la logique encouragée par le système. Les techniciens de la coopérative sont, de Terre du Sud sont sans arrêt chez lui. C'est eux qui lui ont conseillé de faire un élevage de pintade maintenant parce que ça rapporte. Enfin, avant, il faisait de la laitière. Maintenant, il fait de la viande, de la limousine dans le Lot-et-Garonne. Enfin, voilà, c'est une logique, mais il n'est pas plus libre pour autant. Hein. Oui, excusez-moi, par rapport au fait que ce n'est pas correct.
Mais d'une fin, tu fais des moyens, mais évidemment, c'est évident, c'est un sophisme, ça. Ça prouve rien, ce que tu dis.
Ah bon ?
Elle dresse un tableau d'un mode déjoué, peut-être, mais qui était un certain mode de vie, mais pour des raisons, si on veut entrer dans l'objectivité, il y avait les moyens de production, ils sont arrivés pour la survie. Et Dieu sait que je suis opposé à ça, complètement. Ils sont arrivés pour la survie. Mais la conservation des moyens, c'est la survie. La mécanisation, c'est la survie économique. Sinon, même 7h du matin, c'est parfois 14h du matin.
Oui, oui, non, mais non. Culture, c'est 14h. Ce que je voulais dire, ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que mon voisin, lui, se lève à 4h du matin, il se couche. Hier soir, il passait ses pesticides au coucher du soleil. Il n'est pas plus libre pour autant. Et ce que je voulais dire, c'est que la survie du monde paysan, c'est faux, puisque chaque année, il y a 20 000 paysans qui disparaissent. Entre 2010 et entre 2000 et 2010, c'est 160 000 paysans qui ont disparu. Les campagnes deviennent un désert et bientôt, il n'y aura même plus de paysans. Ce sont des tracteurs qui seront guidés par satellite, ce qui est déjà pratiquement au point. Si on continue, on va arriver à 500 000 paysans et à un moment donné, il n'y en aura plus que 100 000 dans 20 ans, dans 30 ans. Donc c'est aussi la disparition d'un monde paysan. Alors je voudrais juste qu'on continue quand même à parler de la bio. Et on aura l'occasion de rouvrir sur l'industrialisation.
C'est une question connexe.
Est-ce qu'on s'est vraiment posé la question pour savoir pourquoi les paysans disparaissaient ?
Ils disparaissent parce qu'ils sont hyper endettés. Par exemple, il y a eu des luttes, on en a parlé dernièrement, il y a eu des luttes dans les années 60, menées par quelqu'un qui s'appelait Pierre Lambert, qui est un des fondateurs de Paysans Travailleurs et de la Confédération Paysanne. Et c'était des luttes qui, pour la première fois, ne parlaient plus de paysans, mais de travailleurs. C'était des gens qui étaient entièrement soumis aux coopératives. Et on va voir que dans la bio, on se retrouve exactement dans le même schéma, par un système qui s'appelle le système d'intégration. C'est-à-dire que les paysans ne sont plus des paysans, ils deviennent de sous-traitants des coopératives qui leur apportent les financements et qui leur apportent tout le matériel, les bâtiments, et dans le cas des élevages, donc qui leur fournissaient les veaux. Là, en l'occurrence, l'exemple que je vais donner, ce sera les poussins. Mais il y a eu des luttes très dures, parce qu'à l'époque, on avait encouragé des développements industriels d'élevage de veaux, après, qui étaient en fait aux hormones, et de cochons, notamment dans le Lot-et-Garonne. Moi, je prends toujours l'exemple du Lot-et-Garonne, que je connais bien. Et tous ces gens qui s'étaient impliqués dans ces élevages, les trois quarts ont mis la clé sous la porte. Parce que la première année, une des revendications d'ailleurs de ces luttes à l'époque, c'était des dettes comme salaire. La première année, ils avaient un petit peu de bénéfices. La deuxième année, il n'y avait plus rien. Et la troisième, c'était les dettes qu'il fallait commencer à rembourser. Et on venait leur saisir leur matériel et leurs biens. Donc voilà, en partie, il n'y a pas que ça comme raison. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres raisons. Mais le système industriel, au service d'un monde totalement financier qui n'a pour objectif que de se faire du profit et non pas de nourrir la planète, a entraîné en partie de cette façon-là la disparition du monde paysan. Alors si vous voulez, je vais revenir à l'agriculture bio, à moins qu'il y ait d'autres remarques. C'est pas agréable, excusez-moi, c'est pas une conférence très agréable à entendre. Donc c'est bien que vous réagissiez aussi.
Vas-y. On va revenir sur le bio, donc. Au niveau de l'Europe, lorsqu'il y a eu le dernier changement des cahiers des charges où ils ont été très, très allégés, qui avait la présidence de l'Europe en 2009 à ce moment-là ?
Je ne sais pas si c'est Sarkozy. C'était Sarkozy, mais ça avait été discuté avant. Hein. Il me semble que ça avait. Mais c'était Sarkozy. De toute façon, c'est les mêmes. Quoi,
oui.
C'est les mêmes. Alors, bon, pour revenir donc au développement de la bio, c'est vrai que la bio. Par exemple, la France, jusque dans les années 2000, jusqu'à la fin des années 90, était un pays exportateur de fruits et légumes bio. La plupart des productions du Lot-et-Garonne, je reviens au Lot-et-Garonne, mais c'était partout pareil en France, étaient exportées vers l'Allemagne, vers l'Autriche, vers la Suisse. Mais depuis les années 2000, la France est devenue un pays consommateur et importateur. Il y a eu un engouement et un boom du marché bio, notamment à partir des années 2000. Mais pas qu'en France, un peu partout en Europe, et je vais revenir après sur les détails. Mais donc, En France, il existe une agence qui s'appelle l'Agence Bio, qui produit des chiffres chaque année, qui sort un recueil de chiffres, et qui sont des chiffres extrêmement optimistes. Et on peut se demander, en les lisant, on peut se dire que dans 100 ans, la planète sera entièrement convertie à la bio. Mais bon, par exemple, de 1999 à 2010, le nombre de surfaces au niveau mondial converties à l'agriculture biologique certifiée, donc après je vais faire la différence entre agriculture biologique certifiée et l'autre qui n'est pas certifiée, l'agriculture paysanne qu'on peut trouver en Amérique latine, les gens ils n'ont pas besoin d'être certifiés. Le nombre de surfaces a été multiplié par 4 et aujourd'hui on serait autour de 40 millions d'hectares de surfaces agricoles utiles certifiées en bio. Alors ça peut être un chiffre optimiste, mais si on le regarde de plus près...
En France ?
Non, sur la planète. Donc si on regarde ces chiffres d'un peu plus près, on se rend compte que les deux tiers de ces surfaces sont en fait des prairies. Qui ont été convertis, par exemple, il y a l'exemple des îles Malouines, qui ont converti en une année 400 000 hectares de prairies en bio. Donc ça veut dire qu'on n'assiste pas à un changement radical de pratique agricole, mais juste à une manœuvre qui fait qu'on certifie bio des prairies, alors soit pour toucher des subventions, soit pour d'autres motifs. Chaque pays doit avoir ses raisons. L'Australie, par exemple, qui est l'un des plus grands pays, le premier pays, je crois, producteur en bio au niveau mondial, ce sont essentiellement, les trois quarts des surfaces, ce sont des prairies. En Andalousie, pareil. Donc bon, on peut écarter ça. Après, la deuxième observation qu'on pourrait faire, c'est que cette bio dont je viens de parler se développe essentiellement sur des continents comme l'Amérique latine, l'Afrique ou l'Asie, et dans des pays européens comme l'Espagne dont j'ai parlé, ou la Roumanie, qui sont l'Espagne ne consomme pratiquement pas de produits bio, la Roumanie pas du tout, et l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique absolument pas. Donc on se retrouve dans le cas où les paysans des pays du Sud sont mis au service, produisent, les paysans qui font du bio en Afrique consomment pas ce bio. Les producteurs turcs qui font du raisin bio pour l'exporter ne mangent pas ce raisin. Cette bio n'est pas au service de la souveraineté alimentaire, elle n'est pas destinée à nourrir les populations, elle est destinée à produire produire des produits qui sont exportés, destinés à nourrir une poignée de pays, et dans ces pays une minorité, qui sont une dizaine de pays en Europe, la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, et au niveau mondial, il y a aussi le Japon, le Canada, les États-Unis. Bon, en tout cas, ça fait une dizaine de pays à peine, et au sein de ces 10 pays, c'est une partie de la population qui consomme ces produits bio. Donc on se retrouve exactement dans le même schéma que l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, et industriels, où les paysans des pays du Sud sont mis au service de la consommation d'une partie des consommateurs du pays du Nord. Et en tout cas pour moi, et un ensemble de gens même qui sont dans la bio, alors là on ne peut pas parler de nostalgie, de mélancolie par rapport à ça, c'est le respect de certains principes, c'est vouloir en finir avec un système qui est destructeur de la paysannerie, qui fait que maintenant, par exemple en Colombie où je me suis rendu, dans une zone où il y avait avant dans la région de Cali, où il y avait des cultures paysannes, maintenant c'est à perte de vue, ce sont 300 000 hectares de canne à sucre destinés aux agrocarburants, et il y a une petite oasis dans ces 300 000 hectares de 5 000 hectares de canne à sucre bio. Voilà, ça c'est ce cauchemar, c'est la porte ouverte à ce cauchemar quand on n'est que sur des principes de profit. Voilà, donc, et ces paysans, eux, se nourrissent de riz de très mauvaise qualité importé de Thaïlande qui fluctue en fonction des cours du marché et qui donne lieu très souvent à des famines. Voilà. Pourtant, on était dans la révolution verte et l'agriculture industrielle qui devait nourrir l'ensemble de la planète, mais cette agriculture ne nourrit pas la planète puisqu'il y a toujours des famines. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce constat un peu rude par rapport à cette agriculture qui se développe. Mais ce que je veux dire toujours, ce que je tiens à préciser, c'est que ça, c'est un certain type d'agriculture biologique certifiée. Après, il y a une agriculture bio que vous devez connaître, dont on va parler après, qui est totalement à l'opposé de ça. Cette agriculture biologique, donc essentiellement importée, a été encouragée par l'introduction, l'arrivée sur le marché de la bio, de la grande distribution, qui à partir des années 2000 a flairé un marché hyper juteux, dans lequel elle pouvait faire des profits. Donc elle s'est engouffrée là-dedans, et dans son sillage, ce sont les coopératives agricoles qui se sont lancées dans la bio, en l'occurrence pour faire de la bio sur le territoire français, mais avec des techniques agricoles qui sont totalement à l'opposé d'une agriculture paysanne. Je prendrai tout à l'heure l'exemple des élevages de poulets bio-industriels, et on verra qu'on est en train de reproduire maïs adour, terre du Sud et d'autres, reproduisent exactement le même schéma que l'intégration dont je parlais tout à l'heure, qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde paysan. Voilà, alors si vous voulez réagir, je vais vous donner encore deux exemples de ces dérives, et après j'arrêterai.
Ça sera d'ailleurs le moment de faire la pause de bar public.
Ah bon, il y a une pause?
Oui, il y a une petite pause. Oui.
Parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est quand même de parler d'une autre agriculture, que ce soit l'agriculture, distribution, des exemples, je ne sais pas, il y a les groupements d'achat, il y a tout les AMAP, les groupements de producteurs, il y a une myriade d'exemples d'un autre système qui est alternatif à celui que je suis en train de décrire. Voilà. Alors, si vous avez encore un peu d'énergie, si vous le voulez bien, je vous parlais. Donc, l'Andalousie, je vous ai donné cet exemple de Bionest, mais on pourrait le multiplier. Moi, je suis allé visiter, par exemple, 150 hectares de serres hyper sophistiquées dans la région d'Almeria, qui produisent exactement sur le même schéma que le restant de la mer de plastique, mais là, on est en bio, on n'est plus en chimie, des tomates, des concombres, des courgettes, des poivrons, qui sont produits toute l'année, totalement hors saison, et qui viennent alimenter les rayons des supermarchés et malheureusement aussi les rayons de certaines boutiques spécialisées dans la bio. Et on pourrait retrouver sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, dans des zones de production intensive agricole, que ce soit au Maroc, en Sicile ou en Israël, et même en Tunisie maintenant, on retrouve chaque fois des îlots bio qui produisent exactement les mêmes produits qui sont mis en concurrence par la grande distribution. Par exemple, la grande distribution, en fonction des cours du marché, achètera, bon, Leclerc, à un moment donné, ben, ils vont acheter des tomates andalouses, mais si les tomates andalouses sont trop chères, ils vont acheter des tomates bio, et ça, j'ai pu le voir, ils les mettent en permanence en concurrence. Les carottes d'Israël, si elles sont trop chères, on va aller acheter des carottes de Sicile, et ainsi de suite. Et ce système est en train de se généraliser aussi en France, où, par exemple, un producteur de carottes dans le Nord, qui avait un contrat avec la grande distribution, ne pourra plus vendre ses carottes à un moment donné parce que les carottes de Hollande sont moins chères. Donc on est dans le cadre d'une guerre commerciale où toutes les économies sont mises en concurrence pour les bienfaits, le grand profit de la grande distribution. Alors, sans rentrer dans le détail de ce pourtour méditerranéen, qui alimente une grande partie des rayons de la grande distribution. On pourrait parler d'Israël aussi, parce que de plus en plus de produits sont en provenance, viennent d'Israël. Et là, en Israël, Clémentine Sirio Alassa, qui est allée enquêter là-bas, a montré que l'ensemble des produits bio sont produits sur des terres volées aux Palestiniens, notamment dans la vallée du Jourdain, occupée par 7000 colons israéliens qui non seulement volent la terre des Palestiniens, mais volent 98% des ressources des nappes phréatiques. Et donc ces produits sont estampillés bio, made in Israel. Et c'est totalement en rupture avec le droit international. Et ça, la réglementation européenne de la bio n'a aucun principe qui fait que ça soit interdit. Elle le permet totalement. Je vous donnerai d'autres exemples aussi. L'autre exemple, alors je vais essayer d'aller vite, c'est depuis le développement de la bio dans la grande distribution, mais aussi dans certaines boutiques, on assiste de plus en plus à la présence de produits bio transformés. Par exemple, les pâtes à tarte, il y a 10 ans, on n'en trouvait pas du tout des pâtes à tarte bio, que ce soit en grande distribution ou dans les biocoop. Maintenant, on en trouve même 3 ou 4 marques différentes. Et toutes ces pâtes à tarte, en leur sein comme ingrédient de l'huile de palme bio. Et l'huile de palme bio, on la retrouve dans tous ces produits transformés, on la retrouve dans les biscuits, on la retrouve dans tous les cosmétiques. Alors, cette huile de palme que l'on trouve en France et en Europe, vient essentiellement et uniquement de Colombie. Alors ça, je ne peux pas vous dire pourquoi, il aurait fallu mener une enquête un peu plus pointue. Mais en tout cas, il y a un monopole d'une société qui s'appelle Dahabon, qui se trouve dans la zone caraïbe de la Colombie, et qui appartient à la famille Davila. Et Dahabon a le monopole de l'exportation de l'huile de palme en France et en grande partie en Europe. Alors cette famille Davila, pour aller très vite, se trouve donc dans la zone Caraïbe, qui est une zone très conflictuelle depuis très longtemps. Il suffit de lire « 100 ans de solitude », le livre de Gabriel Garcia Marquez, qui raconte comment les paysans ont été chassés de leurs terres à la fin du 19e siècle pour permettre l'installation des sociétés américaines qui venaient mettre des monocultures de bananiers. Aujourd'hui, ce ne sont plus des bananiers, ce ne sont plus des sociétés américaines, ce sont des sociétés colombiennes avec des fonds américains, mais ce sont des monocultures de palmiers à huile et de canne à sucre, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, la famille Davila est une famille traditionnelle implantée dans la zone, donc qui a participé à toute la répression contre le mouvement paysan, qui était lié aux paramilitaires et en partie lié aussi aux narcotrafiquants, et qui possède actuellement 5000 hectares de palmiers à huile bio, que moi j'ai pu visiter, comme ont pu le visiter certains certificateurs des COSERT ou des dirigeants des Biocop, sans qu'ils y trouvent rien à redire. Mais en tout cas, déjà 5000 hectares, ou même 10 000 même peut-être hectares de palmiers à huile bio, pour moi, c'est déjà un petit peu choquant. On est très loin des exploitations familiales telles que décrites dans la charte de l'IFOAM. Après, ce qui est d'autant plus choquant, c'est cette société Dahabon et la famille Davila. Donc, famille Davila, très liée aux paramilitaires, qui est très puissante, possède, par exemple, c'est juste un exemple, mais le port de Plaisance, où il y a les plus grands yachts de la zone Caraïbe qui viennent mouiller à Santa Marta, où elle a son siège, appartient à la famille Davila. Elle possède des centaines et centaines de sociétés. Et surtout, elle possède la plus grande usine d'agrocarburant de Colombie et certainement l'une des plus grandes d'Amérique latine. Et pour alimenter cette usine en agrocarburant, la famille Davila pousse à la conversion forcée des paysans ou les chasse de leurs terres pour installer des monocultures de palmiers à huile. Alors là, on n'a plus besoin qu'ils soient bio, ils sont généralement durables ou ils ont une autre appellation. Mais voilà, en tout cas, ils participent à l'expulsion des paysans. Et il y a eu en 2009 une affaire qui a fait un peu de scandale et un peu de bruit en Europe. C'était 120 familles de paysans qui occupaient une finca qui s'appelle Las Pavas, qui occupait cette finca depuis des années, qui s'était installée dessus et qui cultivait, qui faisait des cultures vivrières et qui était en train de réclamer, tel qu'ils en avaient le droit, ils étaient en train de réclamer le droit de rester et le droit de posséder les terres de cette finca. Parce qu'il y a une loi en Colombie, bien que la Colombie soit très répressive, il y a aussi un certain nombre de choses qui ont été gagnées par les différents mouvements, c'est que des terres inoccupées peuvent être revendiquées par les paysans qui la cultivent au bout de 10-20 ans. Donc eux, ils étaient dans cette démarche. La société Dahabon a retrouvé le narcotrafiquant à qui appartenait cette finca, a acheté la finca et a aussitôt demandé l'expulsion, ordonné l'expulsion de ces 120 familles de paysans par l'armée colombienne. Il y a eu une réaction des ONG, d'associations en Colombie, qui sont venues jusqu'en France, jusqu'en Europe. En Angleterre, les boutiques de la société BioShop, c'est une société de cosmétiques, j'ai oublié le nom, ont été occupées. Body Shop importait de l'huile de palme de Dahabon. Donc des boutiques ont été occupées par des manifestants. Et quelques jours après, Body Shop a décidé de suspendre l'importation de cette huile de palme en provenance de Dahabon. En France, il y a eu quelques mouvements de protestation, notamment auprès des Biocop. Mais la direction des Biocop a, elle, décidé de continuer à commercialiser cette huile de palme bio en prétextant qu'elle respectait la réglementation et qu'elle respectait l'environnement et qu'elle ne voyait rien à redire. Et que, de toute façon, l'histoire de Las Pavas concernait de l'huile de palme qui n'était pas bio. Donc après, la question que chacun peut se poser, c'est à partir du moment où on est dans l'exigence d'une autre agriculture, est-ce qu'il faut continuer à acheter cette huile de palme bio en provenance de Dahabon, en sachant dans quoi est impliqué le groupe. Il faut savoir que le groupe, la famille Davila, est impliquée dans des très graves détournements de fonds, notamment des fonds qui étaient destinés aux petits paysans, des très graves pollutions atteintes à l'environnement, et qu'en plus, par exemple, dans les plantations de palmiers que j'ai pu visiter, palmiers bio, visités par les certificateurs et par la direction des Biocop, les ouvriers modèles qu'on m'a présentés comme étant les mieux payés et bénéficiant d'une politique de commerce équitable étaient en fait des anciens paramilitaires embauchés dans le cadre d'un plan de réinsertion. Donc moi, c'était un peu choquant. Donc on me présente ces paramilitaires déguisés en paysans comme un gage de commerce équitable, en sachant que ces gens ont très souvent massacré des paysans. Voilà. Si vous voulez, on peut faire une petite pause. Avant la pause, je voudrais vous parler, parce que... Désolé, ça fait peut-être beaucoup d'informations, oui. Mais voilà. Je voudrais, avant la pause, vous parler de ce qui est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, qui nous concerne peut-être autant, et peut-être plus. C'est le développement des élevages de poulets bio en France et notamment dans le sud de la France. Alors, toujours dans ce mouvement d'engouement pour la bio, la grande distribution s'est impliquée dedans et les produits les plus vendus en supermarché, c'est le lait et notamment les œufs et les poulets bio. Donc, cela a motivé la grande distribution à encourager les coopératives agricoles à développer des élevages intensifs de poulets bio. Il faut savoir aussi qu'il y a eu, dans le même temps, le développement de la bio dans la restauration collective. Et la restauration collective est énormément demandeuse de poulets et d'œufs. Puisque dans les cantines, les gamins, ils adorent les poulets, et il faut leur fournir toutes les semaines des contingents de poulets bio. Et pour fournir ces contingents de poulets bio, moi j'ai eu le cas à côté de chez moi, un paysan qui a été contacté qui n'a pas pu satisfaire la demande, donc c'est quelqu'un de Terre du Sud qui a pris la demande. Il faut une production industrielle de poulets. Chaque semaine, il faut 500 poulets, tous du même calibre, pour alimenter les cantines scolaires. Mais c'est une réflexion aussi sur une revendication qui pouvait être légitime. Donc la grande distribution et les coopératives agricoles ont investi le monde du poulet bio, avec les techniques dont je vous parlais tout à l'heure, notamment l'intégration. Moi, j'ai vu Terre du Sud, dans le Lot-et-Garonne, comment ils recrutaient les paysans, donc soit des producteurs qui travaillent avec eux, soit des producteurs qui recherchent de nouvelles productions. Donc ils font des réunions dans une ferme déjà consacrée à l'élevage industriel bio, et ils font des schémas avec des chiffres, des promesses de bénéfices mirifiques, et en l'occurrence, le producteur ou le paysan qui veut se lancer là-dedans n'a rien à faire, puisque Terre du Sud, par exemple, pour un élevage, puisque la nouvelle réglementation permet des élevages de 85 000 poulets à l'année. Donc pour un élevage de 50 000 poulets, comme c'était l'exemple, il fallait un investissement de 250 000 euros. La coopérative a mené déjà toutes les subventions pour un montant de 50 000 euros, subventions régionale, nationale ou européenne, et les 200 000 euros restants, c'est un endettement auprès du Crédit Agricole, donc le paysan part déjà, avant même d'avoir commencé, par un endettement assez lourd. Après, la coopérative fournit les bâtiments, fournit tout ce qui est technique et matériel, fournit les techniciens, par contrat, le producteur doit acheter tous ses poussins à l'usine de la coopérative agricole. Tous les poussins sont vaccinés parce que comme on est dans le cas d'élevage industriel, les poulets sont de plus en plus fragiles. Donc la nouvelle réglementation permet la vaccination, les antiparasites et des traitements allopathiques quand c'est nécessaire, et permet même l'ébécage des poulets dans ce type d'élevage industriel bio. Pour continuer, donc par contrat, le paysan est obligé de vendre toute sa production d'œufs ou de poulets de chair à la coopérative qui lui rachète au prix décidé uniquement par elle-même. Donc on se retrouve avec des paysans qui ne sont plus des paysans, qui deviennent exactement ce que je vous disais, ce qui s'est passé dans les années 60. la situation catastrophique qu'il y a eu dans les années 60 dans le sud de la France, on se retrouve exactement dans la même situation. Pareil, avec des prix qui sans cesse baissent, ce qui fait que le paysan soit met la clé sous la porte, soit augmente sa production et multiplie son endettement. Dernière chose, toujours par contrat et toujours grâce à la nouvelle réglementation, le producteur doit acheter toute la nourriture de ses poulets à la coopérative agricole. Alors, avant, les paysans bio devaient fournir 40 à 50%, c'était le lien au sol, devaient fournir 50% de l'alimentation des volailles à partir de leur production fermière. Maintenant, c'est fini, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, ils achètent par contrat toute l'alimentation des volailles à la coopérative agricole. Et cette alimentation reproduit exactement le même schéma. Elle est basée sur un binôme maïs-soja. Le maïs vient de France, notamment des Landes. Et le soja, il n'y en a pas en France. Ça, c'est un autre débat, à cause des Américains. Mais le soja est importé. Tout à l'heure, je vous disais, de Chine. Comme la Chine n'est plus trop fréquentable, le soja bio-chinois n'est plus trop fréquentable. Donc c'est du soja qui vient du Brésil, d'Argentine, maintenant de Roumanie, et même du Burkina Faso, mais en l'occurrence surtout du Brésil, où ce sont des exploitations de 5 000, 10 000 hectares qui font de la monoculture de soja, pareil, alors que la réglementation interdit la monoculture, et généralement sur des terres gagnées sur la forêt primaire. Et dans la nouvelle réglementation européenne, rien n'interdit d'importer du soja gagné sur la forêt primaire. Alors, juste pour finir, parce qu'autrement le cauchemar ne serait pas complet, excusez-moi, moi j'ai découvert tout ça comme vous en faisant mon enquête. La nouvelle réglementation, puisque dans le cas du Brésil, par exemple, les exploitations de soja bio côtoient un environnement saturé de soja OGM. Et ça, c'est prévu par la nouvelle réglementation. Maintenant, la nouvelle réglementation permet la trace de 0,9% de produits OGM dans tous les produits bio. Ce qui permet donc d'avoir éventuellement du soja bio brésilien contaminé pour alimenter les poulets. Voilà, donc je ne sais pas. Oui, alors oui. Oui.
Éventuellement une question.
Il faut réagir
ou deux. À chaud. Voilà, réagir à chaud et après on reprendra.
Non, je ne réagis pas, c'est ça qu'on a appelé la guerre des classes, autre chose, on crée une génération, une mode industrielle qui remplace les modes traditionnels. Je m'en fous des systèmes. Mais je pose des questions ponctuelles. Je sais qu'il y a des lieux ici. Est-ce que vous avez vu, et toi, journaliste,
vous? Je vous tutoie pas.
Non, je tutoie à l'Assemblée. Excuse-moi.
Ouais, mais tutoyez-moi.
D'accord. Avez-vous assisté à un contrôle bio?
Oui, j'ai un système contrôle.
Il suffit simplement, c'est un autre abord de la question. Posons-nous la question du bien fondé, de la compétence et de la finalité des contrôles. Moi, je ne connais qu'un jeune néophyte dans le truc. Je suis tombé. Je dis rien parce que. Je fais mon trou dans la biodynamie, mais je suis tombé, je ne sais pas d'où pour me trouver, je ne sais pas. C'est hallucinant. Le contenu formel, la compétence intellectuelle ou scientifique, et la finalité morale des contrôles, des trois contrôles que j'ai eus, ça y est, je suis bio. Il faut 3 ans, c'est la super charge.
Non, ce que je voulais dire,
celui
auquel j'ai...
Venez enquêter sur ça.
Non, c'est Pierre Besque, un auteur. Non, mais vous dites journaliste. Moi, j'ai pas honte à être journaliste. Je me suis aussi, comme vous, consommateur de bio. Le journalisme, pour moi, est un outil qui m'a permis d'aller enquêter.
Non, donc,
Journaliste, c'est un rebours. Non, mais là, en l'occurrence, Pierre Besque, qui est un paysan maraîcher depuis 30 ans dans la région toulousaine, qui est aussi un auteur du livre... lui, il le raconte, je ne sais pas s'il le raconte dans le livre, mais en tout cas, il le raconte, il a subi exactement la même chose que vous. Mais lui, ce qui le sidère, c'est que une fois que le contrôleur a fini de faire son travail, il invite à aller dans les champs, voir ce qu'il fait, d'aller voir la terre, mettre les mains dans la... Il n'a jamais le temps. Le contrôleur ne met jamais les pieds sur les terres, ou alors très rarement. Mais peut-être que... Voilà.
J'ai envie de réagir.
Oui. Allez, un agriculteur bio là.
Moi, j'ai été contrôlé hier. Donc c'est la troisième année que je suis en contrôle en bio. De manière systématique, la contrôleuse
elle met les pieds dans les champs.
D'accord. Ah oui. Voilà. Ok, donc ça c'est juste une réflexion de quelqu'un qui pratique, qui va sortir de la certification.
Oui, vas-y, vas-y.
Une bonne dizaine d'années, je suis contrôlé au moins une fois par an, si ce n'est deux. Et quand tu dis que les gens qui contrôlent ne sont pas compétents, en disons 15 contrôles, ça m'est arrivé une fois. De tomber sur quelqu'un qui vraiment ne connaissait strictement rien.
C'est la raison pour laquelle j'aimerais que ce soit contrôlé. J'aimerais qu'il y ait une équipe de journalistes et que vous
les bon. On est pas en France. Un qui n'est pas compétent, c'est sûr, ça peut arriver. C'est pas normal, je suis bien d'accord. De là à dire que tous les contrôleurs sont notoirement compétents, je suis pas d'accord.
Mais la question n'est pas là aussi, c'est pas une question de personne, d'individu.
Systématiquement. Ils me demandent la liste de mes budgets, ils me disent qu'on va à tel endroit, on va à tel endroit, ils me disent toujours cette rue, ils font des prélèvements, ils font des analyses, et c'est pas du tout. On peut, après, la personne qui veut tricher pourra toujours tricher, de toute façon. Mais de là à dire d'être aussi catégorique que toi, je suis pas d'accord.
Ils ne préviennent pas en plus.
Voilà, oui, ils ne préviennent pas. Il y a un contrôle inopiné à peu près tous les deux ans.
Ils ne préviennent pas.
Une fois par an.
Mais après la question qu'on peut se poser, c'est pas une question. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des inspecteurs qui vont dans les champs voir ce qui se passe. Il y en a d'autres qui sont peut-être pris par leur travail, qui n'ont pas le temps. Après, c'est une question d'individu. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est la logique de la réglementation. Voilà, c'est plutôt ça. Après, les histoires, les cas par cas. Chaque cas est différent. Mais la question, je pense, fondamentale, c'est la nouvelle réglementation européenne, son contenu et ce qu'elle permet. Par exemple, je vous parlais des poulets bio. Jusqu'à il y a peu, l'âge d'abattage des poulets bio était fixé à 81 jours, ce qui était déjà contesté par Nature et Progrès, Biocohérence, tout un tas de gens qui sont beaucoup plus exigeants. Et bien, il y a des gens qui ont trouvé une faille dans la réglementation parce que dans les pays, en Suède, enfin, je ne sais plus dans quel pays, ils abattaient les poulets à 71 jours avec une race particulière. Mais ça a pu être généralisé et aujourd'hui, je crois que c'est Duc qui a lancé une production de poulets bio intensifs, abat ses poulets à 71 jours. Donc chaque fois, il y a des gens qui... Je vais vous passer la parole. Mais il y a des gens au service des coopératives, ou j'en sais rien, qui étudient la réglementation et qui sans cesse ils trouvent des failles pour permettre à une agriculture industrielle. Et c'est pas... Il faudrait à un moment donné même sortir de l'histoire de la bio ou pas bio. Je pense que la question fondamentale, c'est quel type d'agriculture on veut. Par exemple, la PAC qui est en train d'être décidée totalement dans le dos de tout le monde. Personne n'entend parler du débat de fond. Ils sont en train c'est 50 milliards d'euros la PAC. C'est le premier budget européen. C'est 100 euros par personne, je crois, au niveau de l'Europe. C'est énorme. Et personne n'est consulté là-dessus. Si ce n'est les députés européens, mais qui ont très peu de pouvoir, qui essayent de contester. Mais ce sont un ensemble de techniciens et d'hommes politiques qui n'ont de compte à rendre à personne, qui sont en train de décider pour 7 ans que va être la PAC. Et la PAC, ça va être le développement, la même chose, une agriculture industrielle, pas du tout, la bio, il n'en est pas question, respect de l'environnement, pareil, enfin, je vais un peu vite, mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc ça va être exactement la même chose, et on va continuer à foncer droit dans le mur avec les subventions qui vont toujours aller. Xavier Belin, le patron de la FNSEA, qui est le patron de la plus grande industrie agroalimentaire de France, je ne sais plus exactement, c'est des millions et des millions d'euros de subventions à travers toutes les filiales qu'il a pu percevoir. Donc je crois que le débat de fond, il est aussi sur quel type d'agriculture on veut. Au lieu qu'il y ait 20 000 paysans qui disparaissent chaque année, il faudrait qu'il y en ait 20 000 qui soient installés. Et bon, éventuellement en bio, ce serait mieux. Il faudrait qu'il y ait des aides, enfin, il faudrait qu'il y ait tout un système à revoir. Et ça, c'est la base plutôt que parfois des querelles entre bio, pas bio. Voilà quoi. Et il y a des gens, pour revenir à la réglementation, qui étudient. Moi, je suis allé en Bretagne, je suis allé voir les gens de BioBrace, et qui ont une charte spécifique. Ce sont des producteurs bio qui se sont battus pendant 10 ans contre la grosse coopérative agricole là-bas. Et le premier point de la charte, c'est non-utilisation de lisier. En provenance d'élevage de poulets, de porcs industriels sur des terres en maraîchage bio. J'aurais demandé, mais pourquoi ? Mais parce que Prince de Bretagne a converti un certain nombre de ses producteurs à la bio. Ils font des légumes pour la grande distribution, Carrefour, entre autres. Et à côté, ils ont conservé pratiquement tous leur élevage de porcs industriels. Et dans la réglementation, il est dit que s'il n'y a pas assez de fumier pour engraisser les terres, on peut faire appel à du fumier en provenance d'élevage conventionnel, à condition qu'il ne soit pas industriel. Et comme il n'y a aucune définition de ce que c'est un élevage industriel, Prince de Bretagne s'est engouffré là-dedans, et du coup, les producteurs qui sont en contrat avec Prince de Bretagne épandent le lisier de leur élevage de porc sur les terres en maraîchage bio. Donc, s'il n'y a pas une vigilance, s'il n'y a pas... je pense que le problème, il est surtout au sein de la réglementation et quelle utilisation il en est faite. Il y a des gens, notamment on parlait de la FNAB, qui ont créé une nouvelle marque qui s'appelle Biocohérence pour essayer de mettre des critères beaucoup plus exigeants pour essayer d'éviter ce genre de dérives et les pressions permanentes de la grande distribution et des coopératives.
Bon, tu avais demandé la parole il y a un moment, tu la prends, on arrête la pause et ensuite on reprend.
Vous croyez que c'est une bonne idée de faire une pause? On peut faire une pause à la fin? Non, parce que on est dans le vif du débat. Enfin, je
oui.
sais pas.
Ça repart quand même.
Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème.
C'est notre charte. Bon, vas-y, pause. Vas-y, pause.
Le débat, il est sur la production.
Non, c'était voilà. Derrière, à 10 mètres derrière toi. Excusez-moi.
Vous avez soulevé la question de votre livre et du risque que certains voyaient de porter atteinte d'une manière générale à la bio. Je donne mon sentiment, hein. Vu la tonalité de la réunion là ce soir, j'ai l'impression que c'est un peu avéré, en définitive, et que sans contester du tout le contenu de vos propos, ce que vous dites, c'est effectivement que le système s'est accaparé d'un secteur, d'une niche économique intéressante, juteuse, la grande distribution, l'agro-fourniture, etc. Rien de très surprenant là-dessus. Le système l'a fait pour l'agriculture conventionnelle, il n'y avait aucune raison qu'il ne le fasse pas pour l'agriculture bio. Vous avez alerté sur la question du cahier des charges qui s'est affaibli en quelque sorte. Mais en définitive, en traitant ça, sans rentrer vraiment dans pourquoi ce cahier des charges a été abaissé, par qui il a été abaissé, j'ai nommé la remarque de Gwenaël tout à l'heure, ouais. Il y a à un moment donné des lobbies au niveau européen qui ont voulu cet abaissement-là, et en quelque sorte, cette approche-là, moi je trouve qu'elle porte un petit peu préjudice à tous ceux qui, sur le terrain, que ce soit l'agriculture paysanne ou l'agriculture bio, se battent pour un autre modèle. C'est un sentiment simplement, voilà, je dis comme je le ressens. Et la question que je voulais vous poser, c'est finalement au-delà de ce constat, fort intéressant, fort instructif, pour moi la question c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et est-ce que vous évoquez d'autres formes d'agriculture, en particulier d'autres modèles ou d'autres cahiers des charges bio, mais en définitive, puisque maintenant il y a une industrialisation qui concourt à l'abaissement des prix des produits bio, parce qu'on va les produire, y compris à l'étranger, avec des coûts de main-d'œuvre beaucoup plus faibles. Comment l'agriculture bio, un peu plus cohérente, va se défendre face à ça, finalement? Et quelle est la place du consommateur dans ce débat, qui sera peut-être tenté, effectivement, de produire du bio lointain que du bio local?
Alors, oui, pour, dans un premier temps, répondre à votre question, en tout cas, le livre, il a énormément circulé, il a enfin, énormément dans le milieu paysan, c'est aussi, il a alimenté beaucoup de débats. Je pense que tous les échos qu'on a eus sont pratiquement tous positifs, parce que il amène des informations, il n'est pas là pour dire quel est le bon bio, mauvais bio, il amène des informations qui ont été nécessaires à un débat de fond. Quoi. Pour répondre à votre question, donc ça n'a pas dissuadé les gens de rester dans ce qu'on peut appeler la bio. Après, ça dépend de ce qu'on appelle bio. Ça fourmille le bouquin aussi. On a fait parler 400 personnes dans le bouquin. Moi, je vous ai donné les informations les plus chocs parce qu'on a besoin, excusez-moi, mais on a besoin à un moment donné d'être vigilant en permanence. Parce qu'on est dans un monde qui est en permanence façonné par des gens qui n'ont pas le souci de nourrir la planète, mais de faire des bénéfices. L'histoire des labels. Alors, on peut se dire, oui, on peut... une fois par semaine, rentrer dans une boutique, fermer les yeux et faire confiance au label. Mais si on commence un peu à regarder ce qu'il y a derrière les labels, on se rend compte que chaque fois, il y a une espèce de manipulation, et surtout quand la grande distribution s'en empare. Par exemple, le commerce équitable, aujourd'hui, le label le commerce équitable Max Havelaar n'a plus rien d'équitable, n'a plus rien à voir avec les gens qui se sont battus pour ça à une époque. Donc, et après, les réponses, c'est des myriades. Enfin, moi, en Colombie, en Espagne ou en Turquie ou partout où j'ai été, et évidemment en France, il y a des gens de tous les côtés qui se battent pour un autre type d'agriculture qui ne soit pas forcément quelque chose de novateur. Ce sont aussi en Amérique latine, il y a des techniques de culture héritées depuis des millénaires des sociétés indiennes qui sont maintenant redécouvertes ici, qui sont même adoptées par certains paysans en Europe. C'est la milpa, les cultures associées ou d'autres. Et eux ils ne sont pas certifiés bio, mais se battent pour continuer leur agriculture, qui est une agriculture essentiellement nourricière. Et très vite, on en vient à se poser la question de la souveraineté alimentaire. À quoi sert l'agriculture ? L'histoire de Spanghero et c'est pas un scandale, puisque c'est une logique, c'est la logique du système qui est dans une guerre commerciale. Donc si c'est moins cher d'aller chercher de la viande en Nouvelle-Zélande, de l'agneau en Nouvelle-Zélande, pour le vendre ici sur le marché, ils iront en Nouvelle-Zélande. Et c'est le système, c'est une guerre économique. Donc en posant le principe de la souveraineté alimentaire, d'une agriculture au service de la souveraineté alimentaire, destinée à nourrir les gens, voilà, après, la réponse, moi je ne peux pas vous dire, je pense qu'il y a des agriculteurs, il y a des paysans bio qui, ou pas bio qui sont dans la salle, eux ont des réponses beaucoup plus appropriées que moi. Les gens que j'ai pu rencontrer en Andalousie avaient d'autres réponses. En Grèce aussi, pour un autre travail, j'ai rencontré des paysans qui là-bas aussi, ou des gens qui occupent des terres pour faire des jardins à Thessalonique. Là, il s'agit d'une agriculture urbaine. Des gens qui occupent des terres en Andalousie, ils occupent une finca de 400 hectares, sont des journaliers sans terre. Ils sont en train de faire du maraîchage, des cultures en bio. Là, ils se sont mis spontanément en culture bio. Ils sont en train de replanter les arbres, parce que c'était des zones sinistrées, et de protéger une nappe. Et en France, moi, dans toutes les conférences que j'ai faites, toutes les enquêtes, chaque fois, j'ai trouvé des expériences de gens qui... Et ça prend toujours une forme différente. J'ai rencontré des groupements d'achat aussi, parce qu'il y a des réponses au niveau de ce qu'on appelle consommateurs, entre guillemets. Mais consommateurs, il faut réfléchir aussi à ce terme. Des gens qui essayent de trouver une autre logique, des gens qui sont encore dans des biocoops aussi, qui sont restés dans une autre logique, qui privilégient la production locale, le rapport avec les clients différents, en ayant des exigences très dures au niveau social. Enfin, mais il n'y a pas une solution unique qui aura un label, c'est la bonne solution, c'est ça qui va vous sauver. Il faut faire gaffe, parce qu'à un moment donné, la bio, ça a été présenté comme ça, par un certain nombre de films ou d'ouvrages, c'est la bio qui va sauver le monde. Et voilà, il fallait encore fermer ses yeux, se mettre à genoux et dire merci. Non, je pense qu'il faut être en permanence vigilant, et c'est que comme ça qu'on arrivera à avancer.
Juste un complément, moi je ne crois pas que ça remette en cause les pratiques des consommateurs qui sont déjà avertis et qui mettent l'alimentation au centre de leur préoccupation, de leur priorité budgétaire. Mais je pense que de la même façon qu'un certain nombre de journaux, d'associations de consommateurs, régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, sortent un article sur la bio, sur qu'elle n'est pas exempte totalement de pesticides, qu'elle coûte plus cher. Finalement, on crée un climat tout à fait propice finalement à ceux qui veulent maintenir le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui.
Ah bon ?
Et en particulier auprès des consommateurs qui, eux, aujourd'hui, ne considèrent pas, du point de vue budgétaire, l'alimentation comme une priorité. Alors même que si on veut changer de modèle agricole, il faudra peut-être que le consommateur aussi, de son côté, mette comme une priorité budgétaire l'alimentation. Oui. L'agriculture, aujourd'hui, vous l'avez souligné, est dans une logique de course, non pas au revenu, mais de course au volume, quoi, parce qu'on l'a imposé, ça.
Oui, et puis
les prix de plus en plus bas.
Et la question du prix n'est jamais abordée, n'est jamais vraiment abordée sous son bon angle. Effectivement, les tomates industrielles qui viennent d'Andalousie, si on devait les payer leur véritable prix, elles seraient peut-être plus élevées que les tomates bio produites ici ou dans le Lot-et-Garonne. Parce que si il fallait mettre dedans tous les coûts, ce que je parlais, la destruction de l'environnement, les routes qui ont été payées par le FEDER, par l'Europe, qui ne sont pas incluses dans le prix des tomates, l'exploitation de la main-d'œuvre, le prix du transport, la pollution, enfin, et même les conséquences au niveau de la santé des gens qui vivent dans cet environnement, ces tomates auraient un coût bien plus élevé que les tomates bio locales. Donc cette question de prix, en fait, on se retrouve. Mais c'est pour ça quand je dis qu'il faut être en permanence vigilant, parce qu'à un moment donné, la grande distribution, il faut voir quand même que c'est le modèle dominant. La France est le pays au monde où il y a le plus de mètres carrés de supermarchés par habitant. C'est le pays. En Colombie, tous les supermarchés appartiennent à Carrefour, à Casino. En Espagne, une grande partie aussi. En Grèce, partout. Ils sont partout. La grande distribution, la France, elle peut s'enorgueillir d'avoir été à la base du monopole de la toute-puissance de la grande distribution. Mais la grande distribution, en permanence, modèle notre environnement et nos pensées. Par exemple, le terme consommateur, c'est un terme qui a été créé par la grande distribution et qui est maintenant totalement banalisé. L'histoire du prix, comment dire, on est dans une société aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus tellement de lutte par rapport aux revenus et aux salaires, au juste prix du travail. Donc, le SMIC, par exemple, il n'a pas augmenté depuis 10 ans ou 20 ans. Et vivre avec 900 euros par mois, c'est très dur, avec des salaires, des loyers qui augmente en permanence, tout un tas de coûts. Par contre, la grande distribution et les discounts, ils ont très bien compris ça, en permanence, ils font un battage, et des fois, ils disent qu'ils parlent au nom des gens, ils reprennent même des slogans de mai 68 pour leur campagne publicitaire, et ils disent qu'ils se battent pour le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, ça a été créé par les Leclerc et compagnie. Avant, on n'en parlait pas, maintenant, c'est repris par les politiques. Mais le pouvoir d'achat, ça veut dire faire pression à la baisse en permanence sur les paysans, sur le prix des denrées alimentaires, pour permettre au plus grand nombre de continuer à remplir des caddies et à acheter tout un tas de choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Mais voilà, le sort des producteurs et des paysans, on n'en a rien à faire, puisque généralement, ils sont à l'autre bout du monde, même s'ils sont à proximité, on ne les connaît pas. Donc, c'est être vigilant, et si on veut vraiment créer un autre système, une autre agriculture, c'est se poser des questions sur tout ça, quoi. Et je pense que c'est absolument indispensable. Autrement, si on veut, on risque d'être en permanence, de reproduire en permanence. C'est ce qu'on a essayé de dénoncer un peu dans le livre, que si on s'intègre, enfin, si on ne réfléchit que par les arguments du marché mondial, on aboutit aux exemples que je viens de vous donner, quoi.
Propose. Est-ce que oui, alors on reprendra assez vite parce qu'il a encore, après nous avoir informé, débattu avec nous, il a quand même encore 3 heures de route à faire.
C'est pas grave. Et ce que je voulais dire, c'était aussi, il faut parler de la question de la terre, il faut parler de la question des semences. Par exemple, Notre-Dame-des-Landes, ça pose la question de la terre, la lutte du Larzac. Il n'y a pas d'agriculture, des paysanneries sans terre, sans semences. Il y a des luttes très dures qui se passent au niveau des semences aussi. Voilà, bonne pause.